Le journal Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour, c'est une révolution que personne n'avait vue venir. En février 1979, les partisans de l'Ayatollah Khomeini renversaient le Shah d'Iran et allaient bouleverser toute la géopolitique du Moyen-Orient. Dans un instant, nous serons en direct de Téhéran avec Franck Madvon. Le grand débat national bat son plein. Emmanuel Macron est dans son élément en campagne, disent ses adversaires. Nous irons, nous, à Asnières, visiter la plateforme téléphonique chargée d'expliquer le mode d'emploi. La campagne des européennes, quelle stratégie pour le Rassemblement national et aussi comment la financer? On en parle à 8h20 dans le grand entretien, Nicolas.
Oui, avec Marine Le Pen, la présidente du RN. Vous pouvez dialoguer avec elle, le standard est ouvert, évidemment, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application d'Inter.
Nous reviendrons sur le parcours édifiant d'un casseur dans la manifestation parisienne de samedi, filmé puis interpellé par la police. Les députés se penchent cet après-midi sur le projet de loi sur l'école, l'école qui devient obligatoire à 3 ans, et les pions, certains surveillants du moins, qui pourront assister les profs. Dans ce journal, nous fêterons l'anniversaire de la doyenne de métropole, Lucille Randon, 115 ans aujourd'hui, et puis un avant-goût de Saint-Valentin avec une belle rencontre musicale.
France Inter.
Il y a 40 ans, la révolution islamique provoquait en Iran un séisme dont les secousses se font encore sentir sur la scène internationale. 40 ans à s'opposer aux États-Unis notamment, et les mollahs sont toujours au pouvoir. Malgré la crise économique, le rétablissement des sanctions américaines l'année dernière a de nouveau plongé le pays dans la récession et dans un pays où la jeunesse aspire aussi à plus de liberté. Bonjour Franck Madvon, vous êtes dans le centre de Téhéran, sur
Bonjour,
la place
Sarah.
Azadi, où la République islamique est célébrée en grande pompe ce matin.
Oui, la foule a bravé la pluie pour se rassembler sur cette immense place Azadi, liberté en persan. Les Iraniens convergent à partir de 10 itinéraires différents à Téhéran au son des chants révolutionnaires. Ils brandissent des drapeaux iraniens, des affiches se moquant des États-Unis, de l'Europe. On chante « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Il s'agit là des fidèles soutiens de la République islamique. Presque toutes les femmes portent le tchador. Ali est venu à vélo et sur son porte-bagages, les portraits des deux guides iraniens, Khomeini et son successeur Khamenei. Cette révolution, dit-il, obéit au même slogan, liberté, indépendance, autorité de la République islamique. Les Occidentaux ont exercé sur nous une pression maximale, mais l'Iran est toujours là. On n'a pas atteint tous nos objectifs, mais on y parviendra dans les 40 ans à venir. Ali fait allusion à la crise, aux sanctions américaines qui plombent l'économie iranienne. Vous l'évoquiez, le climat est morose actuellement en Iran. Et beaucoup d'Iraniens préfèrent ne pas célébrer cet anniversaire. Ils pensent d'abord à la baisse de leur pouvoir d'achat, à l'isolement de leur pays. Ils sont aussi nombreux à ne pas soutenir le régime, à demander des réformes, à dénoncer aussi les interdits et les atteintes aux libertés.
Merci Franck Madvon, notre envoyé spécial à Téhéran avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Votre zoom sur la jeunesse iranienne en décalage avec le régime est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 8h04 en France. Sarah, Emmanuel Macron semble ragaillardi par le grand débat.
Un grand débat aux allures de campagne électorale pour ses détracteurs. Mais le président remonte un peu dans les sondages. Ce jeudi, c'est une information France Inter, Emmanuel Macron se rendra dans l'Indre, territoire marqué par la fermeture de la maternité du Blanc et où la mobilisation des Gilets jaunes a été très forte. L'Élysée se félicite du nombre de réunions inscrites à l'agenda sur la plateforme du Grand Débat National, plusieurs dizaines par jour. Comment participer? C'est ce qu'un numéro vert est chargé d'expliquer. Rémi Brancato a visité pour nous l'une des deux plateformes d'appel de téléperformance à Asnières dans les Hauts-de-Seine.
C'est dans ces bureaux d'Asnières-sur-Seine qu'arrivent les appels au numéro vert.
Merci de votre intérêt pour le Grand Débat National. Comment puis-je vous aider?
Ils sont entre 5 et 10 téléopérateurs pour répondre en somme à une question. Comment participer au Grand Débat?
C'est anonyme ou il faut laisser ses coordonnées?
Vous pouvez mettre des pseudonymes, monsieur.
Ok. Je vais les voir alors. Vous m'avez dit dans granddebat.fr.
6 appels sur 10 visent à obtenir des informations pour participer au débat. C'est ce qu'assure Linda Emla. Elle gère le partenariat avec le gouvernement.
On partage quotidiennement des rapports d'activité avec le gouvernement et on leur demande des éléments de réponse supplémentaires quand on sent qu'on n'en a pas assez.
50 50 salariés ont été spécifiquement formés pour répondre aux questions pratiques, mais pas aux doléances, même s'il faut parfois y faire face.
J'ai repris un emploi, c'est pas normal de rien gagner.
Alors, je ne peux pas prendre en compte vos doléances personnelles. Ceci dit, je vous invite à les signaler et à les transmettre.
En souhaitant qu'il y ait quelque chose, ça fait 30 ans que je vote, malheureusement, je reste très méfiant.
La société craignait des appels en masse des opposants au grand débat. Finalement, il n'en est rien, mais elle est préparée aux situations de crise en 7 ans de partenariat avec le gouvernement.
Il nous arrivait d'intervenir notamment sur des événements tragiques qui ont touché la France, comme des attentats. Ce sont des exercices auxquels on est habitué.
Et l'intérêt des citoyens semble se maintenir avec en moyenne 150 à 200 appels par jour.
Merci, au revoir monsieur.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit les dirigeants des principaux syndicats agricoles. Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, est attendu à Avoine, près de Chinon, en Indre-et-Loire, pour illustrer la lutte contre les déserts médicaux. Des avocats vont saisir le Conseil d'État, cette fois pour demander l'interdiction effective des grenades Gli F4. C'est une information France Info. Cette grenade lacrymogène et assourdissante qui contient une petite charge explosive a coûté la main à un manifestant samedi à Paris. La gendarmerie a déjà décidé de les remplacer, mais elle écoule ses stocks. Le cortège parisien de samedi a encore été émaillé d'incidents violents. Distributeurs de billets saccagés, un fourgon de l'opération Sentinelle brûlé. Un suspect a été placé en garde à vue, Laurélie Carive. Il a 25 ans et il a été suivi par la police tout au long de son parcours.
Avec son masque et ses lunettes de protection, son gilet jaune enfilé sur des vêtements noirs, Thomas est repéré samedi en début d'après-midi par les policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention. À ce moment-là, le jeune homme est en train d'attaquer à coups de marteau la vitrine d'une banque. Au vu des manifestants hostiles qui l'entourent, les fonctionnaires décident de ne pas l'interpeller, mais pendant 4 heures, des policiers en civil vont le prendre en filature. L'opération n'est pas facile, il est extrêmement mobile, il enlève et remet son gilet jaune. L'état-major s'appuie donc aussi sur les images de vidéosurveillance pour suivre son parcours en temps réel. Et partout où il passe, il casse d'autres vitrines, des caméras de surveillance, une voiture de luxe au moins est incendiée. Un peu avant 17h, le jeune homme passe le corps à l'intérieur d'un véhicule de l'opération Sentinelle dont les vitres ont déjà été brisées. Dès qu'il en ressort, l'habitacle se met à flamber. Thomas est finalement interpellé une heure plus tard environ. Membre de l'ultra-gauche, il était déjà connu des services de renseignement.
C'est assez rare. Un homme accusé d'être un frotteur du métro est jugé aujourd'hui à Paris pour plusieurs agressions sexuelles. Il profitait des heures de pointe pour se coller aux jeunes filles et toucher seins, fesses ou davantage. L'une de ses victimes, une adolescente de 14 ans, ne s'était pas laissée faire et avait permis son arrestation. L'école maternelle ne sera plus laissée au bon vouloir des parents. Le projet de loi École de la confiance, examiné à l'Assemblée nationale cette semaine, veut rendre la scolarité obligatoire dès 3 ans. Aujourd'hui, seuls 3% des bambins de 3 ans manquent à l'appel, mais ce sont peut-être ceux qui en ont le plus besoin. Dans ce texte un peu fourre-tout, on trouve aussi la possibilité pour certains assistants d'éducation, les pions, d'assister les enseignants en classe. Il s'agit officiellement, Alexis Morel, de lutter contre la crise des vocations.
Une nouvelle catégorie de pions qui deviendrait ponctuellement des profs, ces lycéens ne sont pas convaincus.
Ils seraient trop jeunes pour arriver à enseigner parce que l'âge du surveillant et l'âge des élèves, il est trop rapproché.
Genre on aurait du mal à le prendre au sérieux.
Mais cette mesure s'adressera uniquement à des étudiants qui se destinent à l'enseignement. Les volontaires seront recrutés par l'éducation nationale dès leur deuxième année de licence et amenés progressivement à assurer quelques heures de cours contre rémunération avant même d'obtenir leur concours. Une bonne idée pour Émilie, étudiante et surveillante. En lycée.
Ça permet d'avoir une connaissance vraiment réelle du terrain. Souvent quand on est étudiant, on se pose beaucoup de questions. Donc oui, ça peut donner envie d'être enseignant.
C'est ce que le ministère appelle la pré-professionnalisation, un moyen de lutter contre la crise des vocations en appâtant des candidats le plus tôt possible pour leur faire découvrir le métier en douceur. Mais ces pions d'un nouveau genre risquent de devenir des bouche-trous, selon Valentin Albert du syndicat SNES.
C'est la crainte du remplacement au pied levé. Ce seront des personnels mobilisables dans les établissements scolaires. Ils y seront 8 heures par semaine. Le chef d'établissement aura toute autorité sur eux. C'est finalement pour le ministère une manière de se constituer dans les établissements un vivier de remplaçants.
Ce n'est pas du tout l'objectif, assure le gouvernement, qui vise 3000 contrats de ce type par an.
Il est 8h10 en Syrie. L'offensive est lancée contre le dernier bastion du groupe État islamique.
Les forces démocratiques syriennes gagnent du terrain dans la dernière poche encore aux mains du groupe terroriste dans l'est à la frontière avec l'Irak. Dans cette enclave se trouveraient quelques centaines de combattants djihadistes. journalistes et autant de civils, dont des combattants européens et leurs familles. Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier qu'il se représenterait aux élections en avril pour un cinquième mandat, enfin annoncé par un communiqué officiel. Ça fait presque 5 ans que les Algériens n'ont pas entendu la voix de leur président, très affaibli par un accident vasculaire cérébral. À 81 ans, il n'apparaît plus que rarement cloué dans son fauteuil roulant. C'est la polémique qui monte aux États-Unis. Un site conservateur a exhumé une vieille photo du gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, étudiant, est mentionné sur une page où l'on ne sait pas quel personnage il incarne. Au choix, un homme masqué dans le costume du Ku Klux Klan ou un autre maquillé en noir, le blackface. Dans les deux cas, difficile d'échapper aux accusations de racisme. Notre correspondant Grégory Phillips l'a constaté sur place à Richmond, en Virginie.
Devant le Capitole de Richmond, les manifestations appelant à la démission de Ralph Northam sont quasi quotidiennes. Dans un premier temps, le gouverneur démocrate a présenté des excuses, affirmant qu'il ne se souvenait plus lequel des deux personnages il était sur la photo, avant finalement de revenir sur ses déclarations et d'affirmer qu'il n'a jamais porté de tenue du Ku Klux Klan et qu'il ne s'est jamais grimé en noir. Ça ne me surprend pas, dit Roy, rencontré dans le quartier afro-américain de Jackson Ward. Les hommes blancs ici font ça depuis des années. Ce pays, cet État, se sont construits sur le racisme. Moi, ce qui me surprend, c'est que tout le monde soit surpris. C'est ça l'Amérique. Julian Maxwell Etter est professeur d'histoire afro-américaine à l'université de Richmond. Le blackface est né de la caricature que l'on faisait à l'époque des esclaves. Mais quand on voit ces images ressurgir, ça veut dire que le sud des États-Unis n'a pas encore réglé tous ses démons. La plupart de ces hommes blancs, qui ont une 50aine d'années, qui sont aujourd'hui en politique, ont été élevés par des parents ou des enseignants qui ont vécu à l'époque de la ségrégation. La semaine dernière, le procureur général de Virginie a dû reconnaître que lui aussi s'était grimé en noir dans sa jeunesse. Dans un dossier qui n'a rien à voir, le gouverneur adjoint est accusé d'au moins 2 agressions sexuelles. En Virginie, c'est tout l'état-major démocrate qui est aujourd'hui dans la tourmente. Richmond, Grégory Phillips, France Inter.
C'est en Australie que la France a officiellement décroché ce matin un contrat militaire à 50 milliards de dollars. Naval Group, anciennement DCNS ou Construction Navale, va construire 12 sous-marins et un chantier naval pour la marine australienne, ce qui fera travailler aussi 500 personnes en France. 115 ans, Lucille Randon, en religion Sœur André, va souffler toutes ses bougies aujourd'hui dans le Var, où elle vit en maison de retraite. Elle est donc née le 11 février 1904. Elle est la douane de métropole, peut-être même française. L'état civil de la Mahoraise Tabacolo, qui serait née en 1902, fait débat. Lucille Randon sent le poids des ans. Elle s'est confiée à Thibault Lefebvre.
Lucille n'entend plus grand-chose, sauf sur le combiné du téléphone fixe de sa chambre.
5 heures, ben c'est dur à avaler.
Dur à avaler parce que Lucille appréhende cette journée un peu spéciale.
Moi, je me laisse faire. On me fait belle. Ensuite, on fait un repas spécial et c'est lourd à porter. Toute la journée, faire des sourires à tout le monde. Vous savez, à 115 ans, c'est pas le rêve.
Car entre les douleurs permanentes, le manque d'appétit, la vie en fauteuil roulant et la solitude, il ne reste que les bons souvenirs pour rire encore un peu. Lucille se rappelle notamment du retour de son frère Lucien. C'était en 1918, il y a un peu plus d'un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale.
Au milieu de la nuit, il est arrivé à la maison comme une fleur. Quand je me suis levée pour aller à l'école, maman me dit... Dans la salle à manger, il y a Lucien. Ah, alors il s'est réveillé. Et il m'a embrassé, il était content. Ça a été la joie, je m'en souviendrai toujours.
Un souvenir qu'elle partagera sans doute aujourd'hui avec ses proches pour ce qu'elle voudrait être son dernier anniversaire.
J'espère que le bon Dieu me prendra cette année. 115 ans, c'est suffisant.
115 ans de souvenirs précieux et émouvants pour nous, en tout cas, et c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Ce qui marque dans une vie, c'est l'amour, c'est ce que nous raconte en musique la soprano Raquel Camarinha et le pianiste Johan Héro, puisque c'est leur coup de foudre qui a inspiré leur album Rencontre, que vous nous racontez, Stéphane Capron.
Raquel et Johan se sont rencontrés en 2012 lors d'un concert autour de Debussy. C'est le coup de foudre et depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils ont fondé une famille, leur petite fille les accompagne en tournée et ils ont souhaité graver leur amour sur ce disque qui rend hommage à ces compositeurs qui mettaient en musique les grands poètes de l'époque.
c'est encore plus facile à chanter quand nous avons des beaux textes comme les poèmes de Verlaine, les poèmes d'Aragon, on a du Apollinaire aussi. J'ai cette mission de donner des textes merveilleux.
Quand l'univers poétique est tellement riche que, en plus, la musique est tellement inspirante, enfin, pour nous, on a juste à prendre place au milieu de tout ce génie et d'essayer d'en être digne et de se laisser porter par tout ça.
Si le baiser le plus célèbre de l'histoire de l'art est certainement celui de Rodin, celui de Raquel et Johan en couverture de l'album va marquer l'histoire de la musique classique.
Non mais c'est juste, moi j'ai pas vu de baiser. Hein,
ça... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, on a la promesse du baiser, c'est la rencontre avant le baiser, alors il faut écouter l'album pour savoir en fait.
C'est un album d'amour, c'est aussi un album d'humour, comme avec ses fêtes galantes de Poulenque sur un poème d'Aragon.
On voit des marquis sur des bicyclettes, on voit des morlots au cheval du pont, on voit des morveux avec des voilettes, on voit des poupées pour les pompons.
Raquel Camarinha et Johan Hérault ce soir à Paris au Théâtre de l'Athénée, puis en tournée. À Los Angeles, c'est le grand gagnant des Grammy Awards, les victoires de la musique américaine. This is America. On change de style avec Childish Gambino, 4 récompenses dont chanson de l'année pour This is America, une première pour un morceau de rap qui a fait polémique. Certains l'ont jugé pas très politiquement correct sur le racisme et les excès de la société américaine. Rien de provoquant en tout cas dans la prestation de Childish Gambino hier soir puisqu'il n'est pas venu chercher ses trophées.
Merci Sarah Guibaudot. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, l'amélioration se confirme.
Et oui, fini les grosses bourrasques. La tempête s'est échappée. Ce matin, on retrouve des résidus nuageux et de la neige du nord-est au centre-est avec des giboulées, donc, et de la neige des 300 mètres du Jura aux Alpes, mais aussi sur le Massif central et le Piémont pyrénéen. Et des côtes bretonnes au Pays basque, vous passerez la matinée sous un ciel variable, alternant nuages et éclaircies. Puis autour de la Méditerranée, le ciel est encore un petit peu nuageux ce matin sur le Roussillon, mais le soleil est plus vaillant du Languedoc à la Provence jusqu'à la Côte d'Azur. Avec quelques averses en Corse et le Mistral et la Tramontane soufflent encore fort. Et comme l'air froid s'est engouffré derrière la tempête, on a quelques gelées ce matin vers les Ardennes ou en Lozère.
De plus en plus d'éclaircies ?
Oui, qui vont gagner la région parisienne, le nord, le centre et le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse. Et demain, ce sera encore mieux et encore plus ensoleillé mercredi pour donner dans le sud-ouest un air printanier et un régal sur les pistes. En attendant, cet après-midi sur l'est, vous aurez encore de la neige du Jura aux Alpes, du soleil et du vent autour de la Grande Bleue jusqu'en Corse. Et le mercure est en baisse. Pas plus de 3 à Gérardmer, 4 à Belfort, 8 à Strasbourg, 10 à Paris. Jean le retrouve, 11 à Manosque et pas de jaloux. À Bordeaux, Marseille ou Nantes, vous aurez 12 et le maximum c'est pour Nice avec 16 degrés.